France Culture.
Bonjour Bouclem, bonjour Lola Lafont. Pour être tout à fait honnête, je ne savais pas trop à quoi m'attendre avec Il n'a jamais été trop tard. Deux années, 2023-2024, c'est des événements que j'ai forcément suivis, qui m'ont forcément marqué. Je me demandais bien comment votre plume allait, en les revisitant, me parler. Comment ce banal, entre guillemets, allait me devenir intime. Eh bien, je vais le dire tout de go, j'ai été bluffé.
France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
Il y a manière et manière de tenir tête au réel. Écrire en est une, et c'est ce que fait Lola Lafont, l'invitée de votre Book Club aujourd'hui. Tenir tête, ça ne veut pas forcément dire s'entêter. C'est aussi lui opposer à ce réel qui nous échappe, qui nous éclate à la figure, qui nous arrête. Lui opposer de la pensée, du sensible, quelques puzzles de mots. Il faut trouver la bonne distance, se tenir aussi à bonne distance de soi-même pour être traversé. Dans son dernier livre, Lola Lafont mêle ses écrits pour le journal Libération à un continuum de récits plus intimes et à des éclats poétiques. Elle est avec nous pour en parler. Vers 15h50, lecture jeunesse avec Mathilde Wagman. Aujourd'hui, les yeux dans un livre et les mains dans la terre. Quand l'art de la lecture et de la poterie ont des choses à se dire, et on se quittera en chanson grâce au grand jeu des pages musicales. Et ça tombe bien parce qu'il y a toujours presque des chansons dans les livres de Lola Lafont. Nous sommes ensemble pour une heure, il n'est jamais trop tard. Bienvenue à toutes et à tous dans le Book Club. Bonjour Lola Lafont.
Bonjour.
Il n'a jamais été trop tard, c'est le titre de votre livre paru aux éditions Stock. Soyez la bienvenue dans le Book Club. C'est le deuxième Book Club pour vous. Le premier Book Club, c'était un portrait de votre bibliothèque. Vous nous aviez accueillis chez vous et vous aviez détaillé les rayonnages de votre bibliothèque. Je renvoie nos auditeurs et nos auditrices à la réécoute de ce magnifique épisode du Book Club. On vous y écoute là-bas en tant que lectrice. On avait déjà esquissé un début de portrait. Ici, on commence toujours un peu comme ça, en se demandant... Quel lecteur ou quelle lectrice sont nos invités? Comment allez-vous en tant que lectrice? Comment va votre rapport au livre en ce moment?
Alors, il est un peu décousu, mais il est revenu. Parce que à la fin de l'écriture, j'avais bien du mal à rester lectrice. Donc, j'avais quelques livres devant moi que je ne pouvais pas lire. Et donc, c'était un petit peu la promesse à venir. Je me disais, bientôt, je pourrais les lire. Donc, je suis revenue à la lecture. Mais c'est un peu une lecture qui est entrecoupée de coups de fil, de choses comme ça.
Est-ce que vous lisez des choses en ce moment dont vous voudriez nous parler? Des choses qui vous ont particulièrement interpellé?
Je suis en train de terminer Bien-être de Nathan Hill.
Oui.
J'étais ravie de pouvoir le lire enfin.
Pourquoi enfin?
Depuis septembre, j'avais bien envie de me lancer, je pouvais pas, typiquement. Voilà.
Là aussi, je renvoie nos auditeurs à un magnifique book club avec Nathan Hill qui nous a fait le plaisir de venir parler de son livre.
Je vais écouter.
J'espère.
Oui. Et qu'est-ce que je lis?
Et ça vous plaît, ce roman
ça
américain?
Ça me plaît beaucoup. Ça me plaît beaucoup et il y a plein de moments où j'ai envie d'appeler quelqu'un ou d'écrire à quelqu'un, lui dire « Tu sais pas ce qu'il a fait à ce moment-là ?» Eh bien, au moment où ça parle de Facebook, eh bien, ça ne parle pas de Facebook. Et moi, il y a plein de choses trappes.
Fortiche,
ouais. Très fortiche, mais pas poseur.
Ni trop fabriqué.
Exactement. Donc, bravo Nathan Hill.
Est-ce qu'il y a autre chose?
Oui, bien sûr, mais ça, c'est un petit peu avant. J'ai lu La correspondance de Stefan Zweig aussi, qui est très belle. C'est toujours fascinant de voir quelqu'un qui met tant de soin à écrire aux gens dont il lit les livres, même pour les critiquer. Il y a des fois, il a vraiment la dent dure, mais il le fait avec un tel panache qu'on a envie de l'aimer, je trouve. On se dit, un ami pareil, ça devait être quand même quelque chose de partager, d'avoir cette amitié. Mais il n'y a pas que ça dans sa correspondance. Il y a aussi sa compréhension progressive de la montée du nazisme. Et c'est un peu comme le monde d'hier. Il y a quelque chose de très bouleversant dans ce que ça dit du politique. Évidemment que ce n'est pas aujourd'hui, mais en revanche, il y a vraiment la façon dont il analyse le rôle de chaque classe sociale. C'est tout à fait contemporain.
Est-ce que vous lisez, vous, vos contemporaines et contemporains? Est-ce que vous discutez avec des autrices et auteurs des livres qu'ils ou elles publient?
Ah oui, bien sûr. Mais j'ai jamais écrit de lettres méchantes ou des choses comme ça.
Et des lettres gentilles?
Ah oui, 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 bien sûr. J'oublie un roman que j'ai lu et que j'aime particulièrement. Et je me souviens plus du nom de l'autrice, mais vous vous en souviendrez.
Ah, je sais pas.
J'ai le titre propre d'une autrice merveilleuse chilienne. Chez Robert Laffont, je pense qu'elle a eu le Fémina étranger. Et vraiment, lisez-la.
Une mauvaise journaliste littéraire.
C'est pas grave,
ça, la preuve en est en direct.
Propre, lisez-le.
Ok. on parlera tout à l'heure de votre rapport au monde présent, justement à ce contemporain que vous attrapez à la fois par les chroniques retravaillées pour le journal Libération, mais aussi par une forme de journal, en tout cas décrit par ce qui vous traverse au présent. Vous êtes quel genre de lectrice de journaux, Lola Laffont ?
Compulsive, c'est vraiment... D'ailleurs, ce matin, je me suis dit, tiens, je vais mettre un limitateur ou limiteur, je sais pas comment on dit, de temps. Et puis, tout de suite, j'ai exclu tous les journaux. Je me suis dit, bah non, ça peut pas être limité. Donc, allez, hop, j'exclus ça, j'exclus ça, Le Monde, Libé. Je ne peux pas ne pas lire. Et je pense que j'ai été la fille d'un couple qui lisait beaucoup de journaux. Je sais pas, c'est un genre d'habitude. Je dirais pas que c'est un doudou parce que c'est pas du tout quelque chose qui me rassure.
Pas très réconfortant. Pas du tout. Ouais.
Mais je ne peux pas ne pas lire en fait. Ouais.
Quotidiennement.
Quotidiennement, ouais. Je lis pas tout, mais je dois feuilleter, scroller. J'aime tellement ça en fait.
Qu'est-ce que vous aimez là-dedans ? Vous aimez vous tenir au courant ?
La multitude.
Ah.
Ouais. La multitude. J'ai toujours l'impression que c'est vraiment je peux prendre ce que je veux, enfin je veux dire c'est le côté je le prends à l'envers, je commence par cinéma puis après politique, c'est vraiment c'est l'inverse de ce que font justement les algorithmes où vous avez toujours la même chose selon si vous aimez les chiens et je sais de quoi je parle, vous aurez encore plus de chiens. Un journal, il ne fait pas ça, il ne vous obéit pas. Et c'est ça que j'aime, c'est leur voilà, leur liberté.
Et vous lisez tout le temps, toutes les rubriques, dans n'importe quel ordre, vous avez des petits rituels ?
Je pense que j'ai des petits rituels, que j'ai des petites marottes aussi. Non, je ne lis pas tout, hein, quand même. Non. J'ai jamais lu les pages...
De vos lectures d'actu ?
Les marottes, les pages littérature, cinéma, je commence par là, en général. Société, j'aime beaucoup. Je vous avoue que les pages bourse, je ne les ai jamais lues. Comme c'est étonnant.
Vous avez commencé au départ à publier des textes dans des petits journaux, ouais, ou sur la scène des fanzines. Mmh. C'était quoi pour vous, ou c'était quoi à l'époque ce paysage-là, Lola Laffont ?
C'est ma première expérience de publication. Donc en fait, c'est vraiment exactement pareil qu'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a le souci de l'autre, le souci de la personne qui va vous lire. Il y a un petit comité de personnes qui décide de ce qu'il doit y avoir dans les pages. C'est à toute petite échelle, c'est quand même un fanzine, c'est la même chose. Hein. Donc oui, mes premiers textes, je les ai publiés dans un fanzine militant.
C'était quoi comme texte ?
C'était des textes féministes. J'avais une petite page je sais pas, je me souviens plus sur quoi, mais c'était tous les mois. Donc c'était une tâche à laquelle j'accordais vraiment du sérieux, je pense. Et puis après, on le vendait sur les marchés. Donc c'était vraiment directement du producteur au consommateur.
Est-ce que vous êtes encore attentive à cette scène-là, qui est une scène vivante, qui réunit beaucoup de jeunes gens, des jeunes graphistes, des jeunes dessinateurs, évidemment des poètes, des écrivains. C'est une scène qui n'est pas toujours facile à attraper quand on n'est pas connaisseur ou connaisseuse, mais plein de librairies s'y penchent.
Oui, malheureusement, non, pas assez. Et là, je suis tellement... En fait, on est un peu dévoré quand on écrit. On est à la fois écarté du monde et dévoré par ce qu'on fait. Et donc, c'est typiquement le genre de choses dont je me dis que je dois aller faire, surtout la poésie, dont je suis quand même trop ignorante.
Donc, rendez-vous en librairie, ouais, les uns, les unes, les autres, pour aller se renseigner sur les fanzines, notamment autour de la poésie. On va parler de votre livre à vous, Lola Laffont. Il n'a jamais été trop tard, paru aux éditions Stock, juste après cette chanson de Rosalia, que vous aimez notamment pour ses paroles. Donc, je ne sais pas les dire... en espagnol, hein, mais c'est « Je me contredis, je me transforme ». Et c'est une Rosalia que vous aimez, dont vous avez écrit qu'elle était un être important dans ce qu'elle peut déclencher, qu'elle était presque virale dans la manière dont elle peut nous énergiser.
Oui, c'est vraiment un personnage qui... Alors moi, ce que je n'aime pas du tout, c'est quand on compare les femmes les unes aux autres, dans les chanteuses, les actrices, les autrices. Et j'ai l'impression que c'est vraiment quelque chose de très problématique. Donc, quand on dit, alors, Rosalía, ce serait la nouvelle Björk pour son inventivité, ou je sais pas, ou la nouvelle, je sais pas qui. Non, mais Rosalía, c'est Rosalía, voilà. Ouais. Là où vraiment elle me touche beaucoup, c'est dans la façon dont elle s'empare d'une tradition, du flamenco, pour en faire quelque chose qui est à la fois fidèle à sans doute, mais je m'y connais pas assez, à plein de choses, mais aussi qui lui ressemble intimement, et puis qu'elle malaxe, et voilà, et je sais pas si c'est du vrai ou du faux flamenco, et elle s'en fiche d'ailleurs,
elle se transforme.
Ouais. J'aime beaucoup ce programme.
Saoko. Chica, ¿qué dices? Saoko, papi, Saoko. Saoko, papi, Saoko. Chica, ¿qué dices? Saoko, papi, Saoko. Saoko, papi, Saoko. Saoko, papi, Saoko. Cuando pone perla en el collar, de pipián diferente ya no son perla uno. Cuando los cubitos de hielo ya no se guarda hielo, se congela uno. Cuando de noche en el cielo y se vuelve de día, ya todo eso cambió. Cuando el caballo entra a Troya, tú te confías, te ardió. Yo me transformo, make up de drag queen, yo me transformo. Lluvia de estrella, yo me transformo. Pasa de vuelta, yo me transformo. Como sex siren, yo me transformo. Me contradigo, yo me transformo. Soy todas las cosas, yo me transformo. Se me dice que abro el mundo como una nuez. Si me muero, como muero, por la boca, como muere, ve. Sé quién soy, a donde vaya, nunca se me olvida. Yo manejo, Dios me guía. El loco te loco, bebé. Kinky cuando te habla un bebé. Un T-Wall con tie-dye, bebé. La calle en la vida, bebé. Como un pavo real, bebé. La cerilla que mal, bebé. Tu cara, tu mira, bebé. Si te vuelvo a besar, bebé.
A ver si sirven de algo. Los caramelos de la boca.
Cierra la pámpara. Nada te puede parar. Cierra la pámpara, nada te puede parar. Y ya, foca el estilo, foca el estilo, foca el stylist, foca el estilo. De la tijera, y ya, cógela y córtala. Y ya, cógela y córtala.
Le Book Club, Marie Richeux.
Le langage comme geste et l'écriture comme mouvement aujourd'hui dans votre Book Club, et c'est quelqu'un qui danse qui le formule ainsi. C'est passionnant d'ailleurs de relever dans le livre que vous publiez en cette rentrée littéraire de janvier 2025, Lola Lafont, un livre qui se trame en partie des chroniques rédigées en écho avec l'actualité pour le journal Libération, passionnant d'y entendre tant parler du mouvement. Vous avez été formée, disons, sérieusement à la danse classique et vous la pratiquez encore, et s'il est question du retour du même, du quotidien, du calendrier des normes dans votre livre, des saisons qui reviennent et insistent, il est aussi question des cases que l'on saute, des déplacements que l'on opère, des spectacles qu'on fait dérailler pour un geste de résistance, bref, des bougers qui seraient communs à l'écriture et à la danse. Il n'a jamais été trop tard, c'est le titre de ce livre paru aux éditions Stock. C'est un livre aussi où il est beaucoup question, il m'a semblé, de transmission des mots, des livres, des choses, des traces que l'on laisse. Beaucoup de figures d'adolescents et d'enfants qui apparaissent au cours des pages. C'est une des dimensions très intéressantes du passé, du présent, du futur, Lola Lafont. Puisque je parle de ce travail que vous avez fait pour le journal et qu'on venait de là dans le début de notre conversation, vous avez quoi comme rapport au présent ?
Un rapport conflictuel, je pense, parce que... un peu comme tout le monde, j'ai du mal à m'y tenir, à la discipline d'être présente au présent. Ouais. Et avec la conscience que il ne reviendra plus jamais et que le reste n'a pas de sens. Ouais. Donc en fait, je fais des allers-retours temporels, je pense. Il y a des petits moments où le présent s'attrape bien. Mais c'est vraiment, je pense que c'est une discipline hein, aussi, de savoir se poser un petit peu dans le moment. Mais oui, c'est un combat hein, quand même.
Et il s'attrape notamment par l'écriture ?
Il s'attrape complètement par l'écriture, mais alors curieusement, quand j'écris, je suis complètement dans ce que je suis en train de faire. Mais je pense que si on me voyait écrire, on se dirait, mais qu'est-ce qu'elle fait ? Parce que je m'interromps tout le temps. Donc en réalité, je fais des sauts partout, je bouge beaucoup, en fait,
vous
je me lève.
Vous qui pourtant produisez une prose si fluide et qui semble tenir dans d'un seul corps, d'un seul bout, vous êtes jamais... fluidement assise à votre table.
Je réécris énormément. C'est-à-dire, je pense que pour le coup, c'est un geste réitéré. Moi, je sais que l'écriture, c'est du présent, mais c'est beaucoup de futur. C'est-à-dire, c'est beaucoup demain, c'est beaucoup après-demain, c'est beaucoup revenir. Mais en fait, je tiens beaucoup à effectivement cette notion du présent. Là, plus ça avance le temps, et plus j'ai l'impression qu'il faut qu'on s'accroche à ça. Dans la mesure où c'est la seule façon de ne pas être projeté dans une sorte de tourbillon d'appréhension qui font que vous êtes scotché aussi dans le présent, mais plutôt cloué au mur, en fait. Alors, pour rester mobile dans le présent, il faut ignorer que... Quand vous brandit un futur périlleux et surtout quand vous fait miroiter un passé qui aurait été mieux. Moi, c'est ça qui m'inquiète plus. Qu'on vous dise que le futur va être dangereux et qu'on l'appréhende, ça me paraît à peu près normal. Ça me paraît banal, j'ai envie de vous dire. En revanche, ce qui me fait peur, c'est quand on cette tendance à c'était mieux avant, qui gagne vraiment quoi. Je crois qu'il faut vraiment se surveiller pour pas tomber là-dedans. En fait, vous savez, quand vous entendez des gens, mais même à partir de 30-40 ans, mais la musique, elle était mieux quand j'étais ado. Et ça, c'est le glissement pour moi vers la nostalgie. Et la nostalgie, elle est parfois très réactionnaire et pas douce.
Il y a un glissement aussi entre le présent et ce qu'on appelle l'actualité ou l'information. Ce livre, il est en mesure de regarder toutes ces facettes du présent, c'est-à-dire qu'il regarde le présent à l'endroit le plus intime de ce que vous êtes, Lola Lafont, de ce qui vous traverse, mais il regarde aussi l'actualité en tant qu'elle nous traverse plus collectivement. Plusieurs passages de ce livre évoquent des guerres qui ont cours, par exemple, des procès, on va y venir. Et vous notez cette phrase qui est « on ne pourra pas dire qu'on ne savait pas, mais en même temps, plus on sait et moins on peut ». C'est aussi toute la dialectique de ce livre-là, c'est-à-dire essayer de se saisir de ce qu'on sait et en même temps de se saisir de parfois l'impuissance à laquelle ça nous renvoie, Lola Lafont.
Oui, parce que on est certainement en fait les générations qui sont les premières à être tellement informées. On est informés et on voit les images, on voit les chiffres, on voit tout en fait. Donc le problème n'est pas qu'on ne sache pas, parce que pour la génération de mes parents, par exemple, il y a ce truc de ils ne savaient pas tout. Maintenant, il faut se cogner à une autre réalité qui est celle d'un savoir, d'une accumulation, de savoirs, de données plutôt, et qui sont écrasantes et qui font que, effectivement, moi j'ai l'impression que plus on sait et moins on peut, et que il va falloir quand même en faire quelque chose, et que. C'est un peu gênant de me citer, mais je ne sais pas le dire autrement. C'est que moi, il me semble que la première chose qu'on peut poser, c'est que on ne pourra pas dire qu'on ne savait pas, mais on pourra dire qu'on ne sait pas quoi faire de ce qu'on sait, et qu'il faut partir de cette impuissance qui n'est pas définitive. On peut se dire, là, je ne sais pas quoi faire de tout ça. Et pour moi, c'est pas accablant. C'est au contraire un point de départ. Se dire, non, je ne sais pas en fait, et donc je vais me débrouiller pour savoir comment. Je vais me dépêtrer de ce qui me tombe dessus, de ce qui nous tombe dessus. Quel rôle ? Moi, c'est vraiment une question de rôle, en fait. Parce que il y a cette tendance, évidemment, on la connaît, on l'entend, à l'actualité spectacle. Mais c'est bien plus qu'un bon mot, parce que c'est vraiment cette sensation d'être assis dans un fauteuil et d'ingurgiter. Mais en réalité, on le sait, on a un rôle. Donc, le rôle de témoin, c'est pas celui de spectateur. Même s'il est un petit peu de côté. Donc moi, je crois qu'il faut surtout s'interroger sur le rôle qu'on veut tenir là.
Et en tout cas, qui n'est pas celui, un rôle qui nous tiendrait à l'immobilité. Si vous refusez aussi l'endroit d'être spectateur ou spectatrice, Lola Lafont, c'est pour lui préférer un endroit du mouvement. Être spectatrice, d'accord, mais alors pouvoir se déplacer dans la salle de théâtre ou la salle de danse. Est-ce que ça vous étonne que une des choses qui nous soit comme ça autant venue à l'esprit en vous lisant ait à voir avec la danse, le déplacement, le mouvement, presque le saut. Enfin, c'est très prégnant dans ce texte-là.
Ça m'amuse parce que je m'en rends pas compte. Et je pense que ça fait partie d'une ligne que je me suis fixée en écrivant. C'est-à-dire que, à la fois, je voulais m'emparer d'un événement par mois. C'était quand même l'idée de départ, via effectivement ce que je faisais pour Libération. Mais aussi, il y avait ces textes plus intimes qui sont écrits en italique et qui sont les textes de nos saisons, d'une certaine façon. Et cette actualité, je me suis dit, moi j'aime bien ce mot, actualité, qui est un peu kitsch, mais que j'aime bien, et qui est notre actualité intime. Parce que finalement, notre actualité, c'est grandir. Et c'est avoir un parent qui meurt, ou être proche de ses amis et le sentir comme quelque chose de tout à fait fondamental, par exemple, aimer, etc. C'est des choses qui sont notre actualité commune. En passant par ces textes-là, je me suis rendu compte du mouvement, justement, qu'il y avait. Encore une fois, on n'est pas sidéré par rapport à l'actualité, on est dedans. Et moi, j'aime bien penser que l'actualité, qui nous paraît parfois tellement extérieure à nous, en réalité, elle nous regarde intimement, dans le sens, elle nous concerne intimement. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'elle est dévastatrice. C'est pour ça, parce qu'il y a toujours quelque chose dans ce qui se déroule autour de nous qui nous renvoie à quelque chose de très personnel. Le procès Mazan, ça renvoie... Il y a eu tellement de discussions entre amis ou entre proches, je ne sais pas, pendant le procès. On a vu le nombre de textes qui ont été écrits. Mais pourquoi ? Parce que ce n'est pas seulement l'affaire Mazan, c'est ce que ça dit du couple, ce que ça dit du rapport entre un homme et une femme, ce que ça dit du viol conjugal, ce que ça dit de ce qu'on se croit autorisé à faire au nom de l'amour. C'est toutes ces questions-là, et elles nous vrillent.
C'est évidemment une affaire, un procès sur lequel vous écrivez, Lola Lafont, et ce n'est pas le seul événement, la seule actualité qui a à voir avec, on va le dire globalement, une violence faite au corps, tout ça au pluriel, des femmes. Ça revient à plusieurs reprises dans les actualités que vous attrapez dans votre écriture, mais on va commencer par celle-ci, avec la voix de Gisèle Pellicot. C'est à la fin de son procès, elle s'exprime devant les journalistes.
J'ai voulu, en ouvrant les portes de ce procès le 2 septembre dernier, que la société puisse se saisir des débats qui s'y sont tenus. Je n'ai jamais regretté cette décision. J'ai confiance, à présent, en notre capacité à saisir collectivement un avenir dans lequel chacun, femme et homme, puisse vivre en harmonie, dans le respect et la compréhension mutuelle. Je vous remercie.
Bravo, madame. Merci.
Merci, madame.
Merci.
Derrière Gisèle, une foule de témoignages oubliés attendent, rangés, archivés, niés, classés sans suite. Si leur similitude donne le vertige, la persistance avec laquelle notre société bataille pour qu'il n'en reste pas un mot, aucune trace, donne la nausée. Il y a dans le film « La nuit du 12 » de Dominique Moll ces mots, si simples, que prononce le personnage du policier qui enquête sur le féminicide. Il y a quelque chose qui cloche entre les hommes et les femmes. Cette phrase a la modestie d'un début. Elle reprend à zéro. Ce quelque chose, il va falloir le regarder en face. Par quel bout le défaire ? Gisèle a été l'objet d'une entreprise de destruction menée par un homme, son mari, qui n'a rien laissé au hasard. Un système, pensé, organisé dans ses moindres détails. Elle a vécu un calvaire. Mais qu'on ne fasse pas d'elle une martyre. Une de ces icônes muettes, au regard baissé, qu'on aime à célébrer et à plaindre. Justement parce qu'elle le reste, muette. En refusant le huis clos, Gisèle exige de nous que nous voyions, que nous lisions, que nous écoutions,
c'est bien le minimum. Qu'on n'accorde pas une minute de silence de plus aux victimes des violences sexuelles. L'hommage rendu aux mortes, le soutien aux violées, qu'ils fassent un boucan d'enfer. Qu'ils soient un chaos inoubliable, durable. Qu'ils soient une question obsédante, enfin. Juste avant cet extrait de votre texte « Jamais il n'a été trop tard », Lola Lafon, on entendait la voix de Gisèle Pelnicot le 19 décembre 2024 s'exprimer à la fin de son procès. Et moi, je me souviens parfaitement, puisque en l'occurrence, le texte publié reprend assez fidèlement ce que vous aviez publié dans Libération à l'époque. Je me souviens parfaitement de ce que ça m'a fait de lire votre chronique et de ce que ça a fait autour de moi et comment cette chronique a été partagée. Et pour reprendre un petit bout de la conversation qu'on avait avant, vous parliez d'un rôle à tenir, d'un endroit où on peut se placer. Bah, par exemple, là, vous proposiez, avec de l'écriture, des mots, la littérature, le mot « boucan d'enfer ». Et ça, il y a plein de gens qui l'ont attrapé. Ça a été utile pour plein de gens, Lola Lafon. C'est quand même pas rien. Ça a sonné, ça a fait quelque chose, ce boucan d'enfer.
C'est énorme, en fait. Ça me sidère, ça m'émeut. Je sais pas comment dire, je vous dirais, c'est pour ça que je continue. Mais c'est drôle, on est tellement seul quand on écrit, et puis il y a quelque chose d'un peu fou parce qu'on sait pas à qui on parle et on sait même pas si on parle réellement à quelqu'un. En fait, ça se passe pas comme ça. Et puis tout d'un coup, effectivement, des mots. Vont peut-être rester ricochés. Je crois qu'on écrit vraiment depuis le silence, de toute façon, que c'est. On écrit depuis un silence qu'on essaye de combler. Et parfois, ça fait une petite trouée. Mais quand j'écoute Gisèle Pelnicot, je me dis que ça conforte quelque chose qui m'est très cher. C'est. Il faudrait qu'on arrête d'héroïser les femmes. Il faudrait qu'on arrête de célébrer, c'était un autre texte, mais leur courage. Je trouve que ça, c'est un piège assez pernicieux. Quand on célèbre le courage des femmes, et c'est quand même un truc qui revient tout le temps, bah, ça veut dire en gros qu'on les félicite de bien encaisser. Et c'est pas un cadeau. C'est vraiment pas un cadeau. Ce qui est incroyable, magnifique dans ces mots qu'elle prononce, c'est qu'elle reprend le récit. C'est elle qui raconte. Elle s'empare du récit. Et ça va rester. C'est un événement.
Et puis ça fait relais, parce que elle dit « Je ne regrette pas d'avoir ouvert les portes de ce procès ». Vous vous dites « Foutons le bordel, faisons un boucan d'enfer ». Et finalement, à la place de femmes qui se taisent, dont vous parlez beaucoup, Lola Lafon, à la place des fictions qui demandent aux femmes de se taire, dont vous parlez aussi beaucoup, vous parlez aussi à la fois du rôle de la littérature, mais bien d'autres endroits dans la société, de défaire les fictions qui font les femmes, eh bien, d'autres femmes fabriquent d'autres choses. Et c'est assez beau de voir que, en l'occurrence là, il y a une sorte de continuum très... C'est pas toujours que la littérature parvient aussi bien à se brancher au réel.
Oui, et puis ce qui me semble important, c'est que ça vient d'un endroit qu'on n'attend pas. C'est-à-dire que souvent, quand je vais à des rencontres, quand je fais des rencontres dans parfois des petites villes, dans des librairies, il y a toujours une silhouette qui me reste en tête de femme qui n'est pas la militante féministe du coin, qui n'est pas une jeune fille, qui n'est pas ce portrait qu'on se fait de la femme qui va faire avancer les choses, entre guillemets. C'est une dame, parfois, habillée d'une façon sage. Et puis tout d'un coup, elle vient, elle prend la parole et je me dis qu'elle... grandeur, quoi, quelle, et je me dis pas quel courage, hein. Je me dis, elle a fait tout péter à un moment donné. Ça s'est peut-être pas vu, mais elle a tout fait péter à sa mesure. Et moi, c'est ça qui me touche.
Oui, d'ailleurs, il y a plusieurs figures. Je ne sais pas, c'est que des figures. Il n'y a pas que des figures de femmes ou de jeunes femmes qui font tout péter dans votre livre, Lola Lafont, mais que vous attrapez, qui font dérailler le spectacle, qui font dérailler ce qui était prévu, qui font dérailler éventuellement une rencontre en librairie ou une émission de télévision, Lola Lafont. Mais pour revenir à cette expérience-là ou à cette discipline que vous vous êtes donnée d'attraper mensuellement quelque chose du temps qui nous traverse, ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire qu'une fois par mois, vous sondez un écho tout particulier qu'a en vous l'actualité?
Alors, très concrètement, je commence à me stresser le dimanche. Pour un rendu le mercredi soir ou le jeudi. Donc le dimanche, j'ai vraiment l'angoisse. Je me dis, je n'ai rien à dire, je ne vais pas y arriver. C'est vraiment tous les mois. C'est un peu vertigineux dans le sens où on peut parler de tout. C'est une page blanche. Et il me semble que quand on a une voix, il y a un peu de responsabilité sur quoi on va mettre les mots. Donc je commence à regarder un petit peu partout et évidemment je suis presque exemptée de commenter l'actualité puisque c'est un quotidien, donc tout le monde le fait déjà. Donc ce que je cherche, c'est ce qui va faire écho, effectivement. C'est vrai que parfois c'est des choses qui semblent un petit peu à côté. Par exemple là, alors je sais pas si ça sera la chronique la semaine prochaine, mais j'étais dans le métro hier. Et j'entends une jeune femme au téléphone qui donc parle à quelqu'un et elle a cette phrase. Elle dit « Et alors, là, lui, il a eu la bonne idée de se suicider et j'étais en retard. » Elle parle donc de quelqu'un qui s'est suicidé dans le métro ou dans le train. Et je me suis dit « À quel moment c'est possible de tenir tellement à distance le corps d'un autre ?» la détresse d'un autre, pour ne pas se rendre compte que les mots sont devenus, je suis désolée, mais monstrueux, qu'il y a quelque chose du monstre là-dedans. Voilà, donc peut-être que c'est ça aussi une chronique, c'est de voir à quel point il faut prendre garde à ne pas devenir monstrueux.
Mais d'ailleurs, vous êtes très attentive à cela aussi, dans cette attention au temps qui passe, à la répétition du temps, à ce que le langage... ne se vide pas de son sens, c'est-à-dire qu'il y a aussi beaucoup de choses, il y a pour moi une grande méditation dans ce texte-là sur le retour des saisons, le retour des fêtes de Noël, et donc quelque chose qui se répéterait, les normes aussi. Et comment est-ce que on ne cède pas sur son désir, sur le sens? Et ça, par exemple, ça aussi c'est une place que vous décidez de tenir dans les textes Lola Lafont.
Mais c'est tellement compliqué parfois de s'extraire de la personne qui a été construite, évidemment, hein, qu'on s'est construite, etc. Et de savoir vraiment, d'aller vraiment vers ce qu'on désire, c'est tellement compliqué de savoir ce qu'on veut vraiment et pas ce que les autres ont voulu pour vous. Ou alors, ce qu'on croit qu'on voudrait et qu'on ne désire pas, aussi. C'est une question, je pense, qui est vertigineuse, encore une fois, je redis le même mot, mais surtout pour les femmes, en termes de maternité, en termes de vie amoureuse. À quel moment ce sont des choix? Moi, c'est vraiment des choses qui m'interrogent beaucoup, le choix. Qu'est-ce que ça veut dire, d'ailleurs, j'ai le choix? Mais entre quoi et quoi, finalement? C'est ça, la question. C'est, oui, on a le choix, mais il faut voir qu'est-ce qui est devant vous quand vous parlez de choix.
Et ça, vous le faites à chaque fois, c'est-à-dire que vous vous méfiez que les mots se désolidarisent de leur sens, de leur vitalité, et c'est encore plus vertigineux, là c'est moi qui reprends vos mots, Lola Lafont, quand il faut se confronter à un 7 octobre, à la guerre Hamas-Israël, à l'invasion russe en Ukraine, vous ne renoncez pas à y aller. Vous y allez à votre manière, et comment ça se passe là? C'est-à-dire là aussi, comment ne pas commenter banalement quelque chose de trop loin? Quel risque on prendrait à écrire un... Vous voyez, il y a une sorte... La responsabilité dont vous parlez là, elle peut être... Je ne sais pas si elle est plus grande là que de parler d'une jeune femme dans le métro. Peut-être pas d'ailleurs. Mais en tout cas, elle existe.
Ce qui est compliqué avec les textes qui paraissent très vite sur les réseaux sociaux, comme ça, c'est qu'ils sont un peu... Comment dire, ils sont commentés avant d'être lus. Et ça, vous le voyez très très vite. Et puis, c'est parfois très brutal. Mais bon, c'est pas très grave. C'était pas possible de pas écrire sur certains thèmes. Mais effectivement, encore une fois, c'est une question de rôle. C'est-à-dire que moi, la question qui m'intéresse, enfin, qui se pose à moi, c'est pourquoi et comment on va faire pour réussir à se parler ici, alors que la guerre n'est pas ici, et pourquoi on n'arrive plus à se parler ici, alors qu'on est loin. C'est-à-dire, comment ça se fait qu'on est sorti du dialogue, on est sorti de l'échange, j'ai eu cette impression vraiment sur les guerres très très fort, et qu'on oppose un monologue à un autre monologue, et qu'on est à ce point tellement pas en conversation qu'en réalité, on est dans quelque chose qui vous rentre, vous parlez à quelqu'un, mais vous savez que vous n'allez pas être modifié. Vous arrivez avec cette idée que l'autre ne vous changera pas. Donc en fait, ça sert à rien, c'est une sorte d'étalage de posture. Donc au moment de parler de la guerre, c'est ça la question. La question c'est, mais on a une responsabilité ici en France. On a une responsabilité de témoin historique de ce qui est en train de se passer. Donc est-ce qu'on ne devrait pas plutôt interroger ça? Et puis notre propension aussi à vouloir à être dévoré un peu par un truc de commentateur. Ben non, on ne doit pas commenter. On doit se tenir prêt à témoigner. Moi, c'est ça que je crois.
Et en même temps, Lola Lafont, on entend bien dans ce texte la tension qui existe entre toute la responsabilité dont vous parlez là, jusqu'à l'endroit de témoin de la guerre, voire des horreurs, et le droit au retrait, le droit au ralentissement, parfois même le droit à ne pas savoir ou à ne pas prendre part à la course. Ça affleure aussi dans ce texte-là.
Mais oui, parce que s'il y a quelque chose vraiment qui est très frappant quand vous écoutez la radio ou des débats télévisés, c'est que personne ne dit jamais « ah ben je ne sais pas ». Je pense que ça provoquerait un blanc, enfin c'est très rare, quelqu'un qui dit « ben non, pardon, je n'en ai aucune idée ». C'est-à-dire que on a, même moi, vous voyez, je vous réponds, c'est comme si j'avais une réponse à tout. Alors qu'en fait, parfois je devrais vous dire « pardon, je sais pas du tout.
Il y a Vima Laponce qui fait ça merveilleusement. je peux vous dire, à chaque fois, je me régale.
Mais c'est très bien. C'est très bien.
Elle le fait avec une immense intelligence. Souvent, elle dit, pardon, alors vraiment, non seulement j'ai pas compris votre question, mais surtout, je ne vois pas quoi vous répondre. Et je me dis, ah, bravo.
Ben oui. Mais on est entraîné dans cette obligation d'être là. Mais parfois, on peut dériver, en fait. On peut ne pas être là. On peut ne pas être là, ne pas être présent. Vous savez, ça me fait toujours penser à l'appel qu'il y avait, je sais pas du tout si ça se fait encore, mais à l'école, quand on vous dit votre nom et vous devez dire que vous êtes présente. Mais parfois, on n'est pas présent. Et c'est pas grave.
Confère un texte que vous signez sur les baïnes et sur la possibilité de se laisser porter par des courants et sur la peur du large et sur la peur de se noyer et peut-être l'espoir d'être rapporté par l'eau. C'est vraiment comme un deuxième courant d'ailleurs, presque deux énergies qui cohabitent dans votre livre. Il y a aussi autre chose qui cohabite, on l'a dit, c'est quelque chose de plus intime, c'est presque une forme de journal, ce sont des manières d'attraper des choses de votre vie, Lola Lafont. Et je voudrais que, voilà, on lise un extrait de votre texte. Il est question d'un d'abord petit garçon, désigné par la lettre A. Vous êtes contacté par une association pour l'aider à faire ses devoirs. Et un jour, le téléphone ne répond plus. Il pourrait venir chez moi un jour, pour le goûter, il aime tout, pas de problème. Et est-ce que je pourrais lui acheter des feuilles à dessin et des crayons de couleur? Comme ça, il pourrait me faire un cadeau. Oui, bien sûr. On fera ça après le confinement. Mais il faudrait que demain, on termine les exercices de « je suis là pour t'aider à… » T'en fais pas, Lola. J'ai tout compris au devoir, aucun problème. J'acquiesçais. Tous les deux, nous nous appliquions à faire comme si on y croyait, à son affirmation. Aucun problème. Le numéro de téléphone que vous tentez de joindre n'est plus attribué. La famille avait dû quitter la chambre meublée dans laquelle ils vivaient à 5. Ils seraient bientôt relogés en grande banlieue. Il faudrait attendre d'avoir des nouvelles pour reprendre les leçons. Sur une échelle de 1 à 10, pourriez-vous estimer la réussite de votre action? Me demanda une voix calme à l'autre bout du fil. Au cœur de ce début d'été étrangement radieux, où on remerciait de quelques applaudissements des corps épuisés, où on s'émerveillait des canards égarés devant la comédie française, un enfant a disparu. Il s'est évanoui dans la ville. Un gamin parmi d'autres, une photo datée, rangée dans le fichier d'une association. L'éducatrice avait promis de me prévenir dès que A ressurgirait. J'imaginais le petit garçon aux cheveux ébouriffés, en costume bleu de super-héros, parcourant le ciel du 18e arrondissement, qui toquerait à ma fenêtre au 7e étage. T'inquiète, Lola.
Cet été-là, j'ai failli. Sans doute le constatait-il sans s'en étonner. Toutes les enfances n'ont pas la même durée. La sienne était une enfance de paloté, d'exilé, auquel on avait attribué une aide qui ne l'aidait pas vraiment. Elle est triste, cette délicatesse des enfants. Ils nous épargnent quand on échoue à les protéger. Ils le savent. Leur enfance est une fiction. Une fiction dont ils sont les petits acteurs consciencieux. S'ils y jouent à l'enfance, c'est pour nous. Les feuilles de papier à dessin et les crayons de couleur sont toujours sur mon bureau. Sans doute en sourirait-il. Il doit avoir 13 ans maintenant. C'est des trucs de bébé, les coloriages. Un extrait de votre texte « Il n'a jamais été trop tard » paru aux éditions Stock dans le Book Club de France Culture, Lola Lafont. Quelle place tient ou pourquoi avez-vous tenu à entremêler ces récits-là en italique? Et pourquoi est-ce qu'on y trouve tant de figures si belles, si mélancoliques aussi, d'enfants et d'adolescents?
Et parce que vous parliez tout à l'heure de transmission. Mmh. Et c'est vraiment ça... que j'ai découvert au fur et à mesure, parce que je sais jamais avant d'écrire ce que ça va, voilà, ce qui va se passer, mais au fur et à mesure je me suis rendu compte qu'il était temps d'une certaine façon, que peut-être, je sais pas, là où j'en suis, j'avais envie de donner quelques, c'est pas du tout des conseils, mais de dire voilà ce avec quoi moi je ne me suis pas débrouillée. Et proposition pour que ça se passe mieux pour vous. C'est un peu quelque chose comme ça, parce que il y a tellement de jeunes gens dans les rencontres que je fais. Et parfois, il y a cette distance qui fait que vous êtes l'un face à l'autre en dédicace et que c'est tellement une situation gênante, parfois intimidante pour l'un et pour l'autre. Mais par écrit, c'est plus simple pour moi de répondre un petit peu plus largement à une jeune fille, par exemple, qui un jour m'a dit « Et si vous ne deviez, si vous deviez nous donner un seul conseil ?» Elle avait peut-être 16 ans, je ne sais pas. « Qu'est-ce que ça serait ?» Évidemment, je ne pouvais pas répondre. Il n'y a pas un seul conseil à donner. À part, allez-y, je ne sais pas, il n'y en a pas. Donc, évidemment, je parle de choses qui sont très personnelles. Quand j'évoque l'anorexie, c'est pas pour raconter l'anorexie, c'est pour questionner, parce que ça me taraude cette question, la violence avec laquelle les femmes parlent avec leur corps. Cette violence qu'elles s'infligent, pour dire quelque chose qu'elle n'arrive pas à dire. La violence de l'anorexie, qu'on retourne contre soi, et réellement cette façon qu'ont les femmes de disparaître du paysage, quand en réalité, il y a un torrent de choses à écrire, à dire. Moi, je me rappelle de quelque chose qu'on m'a dit quand j'étais adolescente, qui m'avait presque vexée, mais qui quand même mérite réflexion. On m'avait dit... mais alors pendant ce temps-là, pendant tout ce temps que tu prends à réfléchir à ce que tu manges et ce que tu manges pas, bah tu ne fais rien d'autre. Alors c'est un peu affreux, c'était brutal. Mais moi j'ai l'impression qu'on encourage les femmes à se soucier de tout sauf d'elles-mêmes. De tout, de leur apparence, de tout, sauf de ce qu'elles vont fabriquer. Et que c'est vrai que j'ai envie de remettre l'accent là-dessus, fabriquer.
Oui, mais d'ailleurs, ce qui est très beau, c'est qu'il y a dans on va dire la troisième voie de votre texte, qui sont des plus petits fragments, qui souvent posent des questions et qui les laissent ouvertes. Lola Lafont, vous dites, est-ce que, alors je ne sais pas si c'est spécifiquement en écrivant, mais en tout cas, vous dites, est-ce qu'on devient l'adulte qui aurait pu, à l'époque, nous aider, à
nous sauver,
nous sauver même.
Moi, je me suis vraiment posé la question.
Et est-ce qu'on devient celle-là?
Moi, je me pose vraiment la question de, est-ce que, effectivement, quand on sort, quand on s'extirpe de cette épreuve que c'est de grandir, de l'adolescence, est-ce que dans le meilleur des cas, on ne devient pas tout ce qu'on n'a pas eu?
Pile poil, petit poil,
est-ce qu'on
n'essaye
pas ça?
Entendre,
est-ce qu'on n'essaye pas ça? Ouais.
En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a quelque chose qui résonne de cet ordre-là dans ce texte du présent ou des présents, Lola Lafont, c'est que pour autant, vous réfléchissez beaucoup à la norme imposée aux femmes autour de la maternité et de la transmission, et en même temps, vous ne cessez dans ce texte d'inventer plein d'autres pistes possibles pour transmettre, pour dire des choses à des enfants, à une adolescente qui ouvre vraiment. Et vous apparaissez au tout début du texte comme une fille, puisque vous dites qu'il y a quelque chose qui vous a été transmis par votre père et qui est irrésolu, mais qui est là, manifestement.
Oui, une phrase qui m'a ulcérée, je pense, sur le coup, puisqu'il m'avait écrit un petit mot après une dispute qui était de garder de la distance avec ce que je traverserais. Et à l'époque, ça m'apparaissait, je voyais la distance comme une mise à l'écart, quelque chose de prudent. Et je supportais pas cette injonction. Mmh. Et puis j'ai mis une dizaine d'années à comprendre que c'était pas ça. Et que c'était plutôt une façon de pouvoir peindre tout le paysage.
Puisqu'il est question d'horizon.
Mais oui.
La suite de la phrase, je sais plus laquelle absolument. Elle est exactement, mais on va la citer pour être tout à fait fidèle. Vous la connaissez ou vous
retiens l'horizon comme une leçon.
Veille à garder la bonne distance avec ce que tu traverseras, à retenir l'horizon comme une leçon toujours en cours.
Oui, oui, oui. C'était un sacré programme et comme tous les trucs essentiels, on le comprend très tard.
Je voudrais qu'on écoute la voix de Benoît, auditeur du Book Club. Il vous a lu, Lola Lafont.
Bonjour Book Club, bonjour Lola Lafont. J'ai encore une fois été bluffé, ébloui par vos mots, ébloui par la facilité avec laquelle vous allez nous faire passer des messages. Si l'écriture naît du non-dit et se fabrique à bas bruit, comme vous nous écrivez, est-ce que ce livre vous a permis de reprendre votre souffle et donner envie de poursuivre la route? Et dans quelle mesure l'écriture de chronique nourrit-elle votre travail de fiction? Merci pour votre réponse.
Merci à vous, Benoît, pour cette lecture et pour cette question. Lola Lafont, dans quelle mesure est-ce que l'écriture, plus de l'ordre des chroniques, même s'il n'y a pas que ça dans ce livre-là, nourrit l'écriture de fiction?
Je pense que c'est un aller-retour. Moi, je ne fais pas vraiment de différence entre les formes. Pour moi, elles sont toutes. Pour moi, tout est un roman, j'ai envie de dire, ou alors rien. J'accorde la même importance à une chronique qu'à une page de roman. Alors, je pense que tous les personnages qu'on croise dans « Il n'a jamais été trop tard » peuvent devenir des personnages de fiction. Et qu'à l'inverse, certains personnages de mes romans ont nourri certaines réflexions. C'est vraiment un aller-retour, de la même façon que j'adore les mots qu'on croise en ville, écrits sur les murs, parce que ça me semble toujours... Ça vient vraiment vous frapper au cœur, des fois, quand les gens écrivent sur les murs, parce que sinon, les seuls mots qu'on lit, en fait, ce sont ceux des publicités. C'est le seul langage qui reste en
ville. Ça vient trouer ça.
Ah ouais, ça troue ça. Ouais, ça l'interrompt. Et tout d'un coup, c'est comme un sourire. C'est quelque chose. Je crois qu'on mesure pas encore l'importance de la phrase. Je te crois.
Je te crois placardé sur les murs des villes.
Ouais. Je crois qu'on n'imagine pas, en tout cas pour les femmes de ma génération, le séisme que c'est de lire ça sur un mur. À quel point ça aurait.
Tu n'es pas seule.
Exactement. À quel point ça aurait modifié des parcours. D'isolement, de silence. Je crois qu'on n'imagine pas.
Presque dans le même geste d'écriture, Lola Lafont, comme vous attrapez les mots de l'espace public placardé, vous semblez le faire avec les gens qui parlent au téléphone. C'est-à-dire que vous disiez ça tout à l'heure, mais ça, vous attrapez des choses. Par exemple, une femme qui, dans un train, je crois, dit « ça y est, j'ai coché toutes les cases de la vie
oui. ».
Hop. C'est comme si ça rompait un continuum ou alors ça faisait bifurquer votre pensée, ça vous lançait dans l'écriture.
Oui, ne m'emmenez pas au restaurant, j'écoute tout. C'est l'enfer. Oui, mais c'est vrai que les mots sont... c'est vraiment un récit qui est complètement... qui s'appuie sur le mot comme sur une chose tangible, c'est-à-dire l'étymologie, le synonyme. Et ce n'est pas... Ça n'est pas innocent qu'on dise aujourd'hui « bon courage » à la place de « au revoir ». Enfin, je veux dire, ça en dit long sur la façon dont on appréhende nos journées et nos vies. Ou alors, on dit « prends bien soin de toi ». Comme si on allait vers un cataclysme, en fait. C'est un peu inquiétant.
Le Book Club continue.
France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
Et à cette heure-ci, comme chaque mercredi dans votre book club, il est l'heure de parler de littérature jeunesse avec vous, Mathilde Wagman. Bonjour Mathilde.
Bonjour Marie.
Aujourd'hui Mathilde, vous nous parlez d'un livre qui nous invite à pratiquer une activité manuelle.
Oui Marie, mais avant de vous dire de quel livre il s'agit, il faut que je vous raconte comment j'en suis venue à m'intéresser à lui. Vous me pardonnerez, j'espère, ce détour par une anecdote un peu personnelle. J'ai passé une partie du week-end dernier à faire avec deux jeunes enfants de la pâte à sel. Vous connaissez sans doute cette pâte qui a ceci de merveilleux qu'elle se fabrique avec les ingrédients les moins onéreux au monde. Pour réaliser une belle boule de pâte à sel, il vous suffit en effet de mélanger un verre de sel fin, deux verres de farine et un verre d'eau tiède. Après avoir préparé la pâte, nous être armés d'un rouleau à pâtisserie, de quelques couteaux ronds et autres baguettes chinoises, nous avons, ces enfants et moi, passé une bonne heure assis autour de la table de la cuisine à confectionner qui un cendrier, qui une baleine, des bonshommes, un éléphant. Et j'ai alors vécu une sorte d'épiphanie, senti comme une lumière tomber sur moi. On était calme, on était tout à notre affaire, on ne se sentait pas obligé de parler, on avait juste plaisir à ressentir la douceur de la farine, la mollesse de la pâte, à la rouler, la couper, la patouiller. On le faisait avec nos doigts, ça libérait notre tête, bref, on était bien. Ensuite, on a laissé sécher la pâte toute une nuit et le lendemain, on a cuit nos objets au four et après on les a peints et la rebelote, deuxième moment suspendu, calme et volupté. N'étant vraiment pas ce qu'on appelle une manuelle, n'ayant jamais pratiqué le dessin, n'étant ni bonne cuisinière, ni bricoleuse, et n'ayant pas non plus la main verte, la joie a été d'autant plus grande. Le monde des activités manuelles s'est ouvert à moi.
Bah mais ça c'est génial, moi je trouve que c'est une merveilleuse nouvelle Mathilde Wagman, et je vois très bien la lumière qui peut descendre comme ça dans un moment de calme et volupté, car il en manque de temps en temps. Mais c'est quand même une petite chronique littéraire qu'on vous demande de faire le mercredi. Donc quel est le rapport avec la littérature jeunesse ?
J'y viens Marie, j'y viens. Forte de cette révélation, je suis retombée avant-hier sur un livre paru à l'automne et qui porte sur l'art de la poterie. Il s'appelle « Les mains dans la terre ». Il a été imaginé par la céramiste Marion Gros, conçu par elle avec la journaliste Marie Godefrin et la photographe Claire Gary. C'est à la fois un livre de photos et un livre qui invite à pratiquer la poterie avec des enfants. Je l'avais parcouru, j'avais trouvé les photos très belles, mais j'avais mis le livre de côté, peut-être justement parce que je les avais trouvées trop belles, un peu trop belles, ces photos, sur lesquelles on voit la céramiste et ses enfants, leurs mains qui travaillent la terre. Des enfants qui portent des tenues assorties aux couleurs de l'argile utilisée sur fond d'un atelier inondé de lumière, dont les murs sont de couleurs, elles aussi, subtilement en harmonie. Tout ça m'avait paru un peu trop joli pour être à ma portée, disons. Mais, forte de mon épiphanie du week-end, j'ai réouvert le livre.
Et alors, qu'est-ce que vous y avez découvert ?
Les autrices présentent d'abord le parcours de la potière et décrivent ce qu'on pourrait appeler sa philosophie, qui s'articule autour de la matière première de cet art, la terre, les gestes pour la travailler, les sensations associées. Dans un deuxième moment, elle nous guide pour pratiquer la poterie avec des enfants en présentant 9 objets simples à réaliser avec eux. J'ai appris beaucoup de choses à la lecture de la première partie, à commencer par le fait que le terme de céramique vient du grec keramos, littéralement terre à potier ou argile. La céramique est cette activité qui consiste à cuire cette matière première issue des alluvions des montagnes. L'argile devient solide lorsque le four atteint précisément 573 degrés, c'est ce qu'on appelle le point quartz. On distingue 3 grandes familles de céramique, la faïence, le grès et la porcelaine. La faïence se cuit à une température que l'on dit basse, 980 degrés tout de même, les deux suivantes à plus haute température, 1280 degrés.
Puisque chacun y va de ses anecdotes dans cette chronique, je ne dispose pas du tout d'un four qui permet d'atteindre ces températures. Mathilde, on ne peut pas faire ça chez soi du coup.
Eh ben non, et c'est l'autre raison pour laquelle j'avais laissé le livre de côté, ça m'avait paru trop compliqué. Le lisant plus attentivement, j'ai découvert que si Marion Gros conseille d'abord de se renseigner autour de soi pour trouver un atelier qui accepterait de cuire les pièces réalisées, et c'est chose possible d'après elle, elle précise aussi qu'on peut faire les pièces sans les cuire, le séchage suffisant à les rendre solides. J'aime beaucoup la simplicité des objets qu'elle propose de réaliser, des empreintes de main, des ustensiles pour dînette, un porte-savon. Il ne s'agit pas de réaliser des objets parfaits, il s'agit de goûter les sensations auxquelles le contact de la terre nous donne accès. C'est ce que le livre développe dans des textes situés en contrepoint des activités proposées. L'idée que la poterie offre cette joie, née du désir de toucher, de la conversation avec la matière, du fait de sentir le froid, la douceur, l'humidité, de mettre son corps en mouvement, en lissant, en tapant, en écrasant. Un peu lorsque comme lorsqu'on lit un livre à un enfant, passer un moment à confectionner un objet avec eux, c'est jouir d'un moment de partage entre nous, les grandis, pour reprendre ce beau terme utilisé par Lola Lafont dans son dernier livre, et eux, autour d'un moment hors du temps. C'est à la fois une petite chose et une très grande chose, je crois. Tous ces livres qui nous invitent à pratiquer ce type de suspension du temps, qu'il s'agisse de manuels de poterie, de pâte à modeler, de papier mâché ou de recettes de cuisine, ont, pour cette raison, me semble-t-il, une grande noblesse.
Papier mâché, j'avais même oublié que ça existait, ça donne super envie. Vous nous rappelez le titre de ce livre, Mathilde ?
Ça s'appelle « Les mains dans la terre, la poterie » avec Marion Gros et c'est paru aux éditions Gallimard Jeunesse.
Merci beaucoup et on vous remercie, vous, de tous les mercredis, nous encourager à lire des livres avec nos enfants. C'est encore mieux que la poterie. Pied mâché. Lola Lafont, le book club se termine toujours de la même manière, on cherche de la musique dans les livres. Et clairement, vous nous gâtez, vous nous régalez, comme on dit aujourd'hui, parce qu'il y a très souvent de la musique dans vos livres, Lola. Est-ce qu'on peut dire toujours ?
J'ai bien l'impression, ouais, je pense.
Il y a même un de vos derniers livres où il est question tout du long d'une chanson comme ça, et que cette chanson est un fil rouge pour nous emmener très très loin dans les méandres de la mémoire. On ne s'est pas trompé, il y a encore de la musique dans votre livre « Il n'a jamais été trop tard ». Et il y a un moment vraiment sidérant de beauté, un moment de télévision que vous relatez au moment de la mort de Sinéad O'Connor. Vous exhumez cette archive et on se quitte avec un extrait de votre livre.
Sinéad O'Connor.
Ok. Until the philosophy which holds one race superior and another inferior is finally and permanently discredited and abandoned. Everywhere is war.
Le 3 octobre 1992, Sinéad O'Connor est invitée à l'émission Saturday Night Live. Vêtue d'une robe de guipure blanche, elle se prête à l'exercice convenu de la promotion. La dernière note de son single résonne encore quand elle entonne, a cappella, les premiers mots du « War » de Bob Marley. Cadrée en gros plan, on ne voit pas la photo qu'elle tient à la main. « Evil », le mal. Sinéad s'éternise sur la syllabe « Evil ». Sa voix traçant une ligne de démarcation d'un bout à l'autre du temps, le partageant entre avant et après. Avant, le silence, le sale secret. La chanson est terminée, alors Sinéad O'Connor brandit sa photo vers les caméras, celle d'un homme vêtu de blanc qui ouvre grand les bras. Puis elle déchire posément Jean-Paul II et lance les morceaux, concluant d'un « Fight the real enemy ». La chanteuse souffle une à une les bougies blanches d'un chandelier désuet. Le romantisme d'un décor de pacotille s'éteint, c'est fini. Un faible bravo fuse, un seul, qui s'échappe d'un public invisible. Si le spectacle est un jeu de pouvoir, alors c'est elle qui a la main. Pas longtemps, quelques secondes à peine, durant lesquelles ses mots résonnent, ils s'attardent. Combattons notre véritable ennemi, celui qui sait et impose le silence à grands coups de sermon.
Until the philosophy which old one race superior and another inferior is finally and permanently discredited and abandoned.
C'est réentendre Bob Marley que de m'entendre chanter par Sinéad O'Connor, c'est dingue.
Oui, même si elle a changé les paroles.
Oui.
Mais c'est vrai que parfois le problème, c'est que la mémoire n'a pas l'air d'être efficace quand on parle de lutte. C'est-à-dire que les figures de lanceuses d'alerte, elles tombent dans l'oubli. Et puis on recommence. Donc j'ai eu envie effectivement de revenir sur ce geste de Sinéad O'Connor et tout ce qui lui a coûté. La façon dont elle a été sifflée, la façon dont elle a été rayée de la carte. Elle qui a été la première chanteuse à dénoncer publiquement les abus commis par l'Église. Et oui, il faut l'exhumer, il faut la ressortir.
Il n'a jamais été trop tard pour le faire, donc, apparu aux éditions Stock. Un grand merci, Lola Lafont.
Merci.
Le Book Club se réécoute et j'encourage nos auditeurs et auditrices à réécouter le Book Club où vous partagez votre bibliothèque. Un grand merci à toute l'équipe, à la réalisation Vivien Demeyer, à la prise de son aujourd'hui François Saint-Jour.